Deutsche Welle Forum des Cultures.
En 1940, une grande partie de la France est occupée par les troupes allemandes. Le général de Gaulle envoie alors son adjoint, Philippe Leclerc, recruter des tirailleurs sénégalais sur le continent africain pour renforcer les troupes françaises. Le colonel débarque au Cameroun et sur la route, entre Douala et Yaoundé, il s'arrête à Edéa. C'est le point de départ de La Saison des Prunes, dernier roman en date de Patrice Nganang. L'auteur camerounais est l'invité de ce Forum des Cultures. Bonjour et bienvenue. Outre son activité d'écrivain, Patrice Nganang est professeur de littérature à New York. Invité par l'université Humboldt, il est venu faire un cours magistral à Berlin sur la crise de la littérature africaine contemporaine. C'est assis sur les escaliers en face de l'amphithéâtre qu'il nous a parlé de son dernier roman.
La Saison des Prunes, c'est un roman moins historique que le roman d'une époque. Le français n'a pas tellement de concept pour ça. L'allemand a cependant le concept de Zeitroman. Et c'est un peu ce genre de roman que j'écris toujours. C'est-à-dire un roman dans lequel je voulais représenter un certain nombre de personnages, la naissance de leur manière d'être, des personnages qu'on appelle les nationalistes. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils sont devenus ce qu'ils sont et dans quel contexte. Le contexte général, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui s'est retrouvée commençant au Cameroun du point de vue de la France libre et qui a impliqué pas seulement les soldats, mais également les gens qui étaient partie prenante des débats qui concernaient cette guerre-ci et desquels gens plus tard définiront ce que c'est que le Cameroun aujourd'hui. Il s'agit de Niobe, Wandji, etc. Mais du côté français, évidemment, Leclerc qui est venu en 40 déjà, De Gaulle et puis bien d'autres personnages, Dio, qui d'une certaine manière sont périphériques dans l'histoire française, ces autres personnages-là, Félix Eboué, qui est au Panthéon cependant, mais qui, par exemple, durant les cérémonies du débarquement, n'a même pas été mentionné comme ayant été partie prenante du début de la résistance française.
Félix Eboué est nommé gouverneur général de l'Afrique équatoriale française en 1940. C'est de là que partent les premières forces de ce qu'on appelle la France libre, par opposition à la partie de la France occupée par les troupes allemandes. Eboué organise une armée de 40 000 hommes et tente d'appliquer sa politique indigène, autrement dit faire en sorte que les Camerounais puissent conserver leurs traditions et que la bourgeoisie indigène s'implique dans la gestion locale. On a aussi beaucoup parlé pendant ces cérémonies des fameux tirailleurs sénégalais. Est-ce qu'il ne serait pas temps de corriger cette expression ?
Oui, en effet, mais c'est moins une correction que la présentation de la complexité de ce que c'est qu'une guerre, mais d'abord même de ce que c'est que la colonisation, parce que pour l'espace d'expression française en Afrique, les résistants étaient en fait des Français qui ont, ou bien ceux qui ont décolonisé apparemment l'Afrique, c'était des Français, et ceux qui ont donné l'indépendance, c'était des Français. C'est-à-dire qu'on a une écriture de l'histoire qui est née de la libération de la France et qui fait que, qu'en conséquence, les structures de la colonisation se sont remises en place, mais sous la forme d'un caméléonnage. Et donc, c'est un peu comment est-ce que la libération a été vécue comme une forme d'esclavage, en fait, comme un esclavage par les Africains. Comment est-ce que la résistance est devenue l'asservissement pour les Africains? Comment est-ce que la Grande Guerre, comme on dit, a été finalement un autre chapitre de la colonisation pour eux? C'est grosso modo cela que je voulais raconter, mais aussi voir comment est-ce que la guerre en général, c'est une fabrique d'idées nouvelles. C'est-à-dire la destruction d'un monde ancien et c'est la naissance de nouvelles idées. C'est-à-dire là-bas, c'est le nationalisme, par exemple. C'est le syndicalisme, le fait que les gens qui étaient tous des fonctionnaires ont soudain une conscience politique, mais basée sur le fait qu'ils ont un attachement structurel l'un avec l'autre. Je parle là des Africains. Et donc, c'est la naissance finalement d'une conscience syndicale, etc. Le rôle des femmes. Et moi, il m'a toujours été extraordinaire de lire des romans de guerre et de manquer en fait la présence féminine comme étant structurante de ce que la guerre est. Et moi, je voulais en fait raconter, écrire un roman qui raconte comment est-ce que les femmes sont partie prenante de la bataille générale et comment.
Oui, justement, donc les femmes ont un grand rôle dans ce livre, et donc elles ont différentes fonctions également. Les femmes qui restent dans les villages quand les hommes sont partis faire la guerre, les femmes qui assistent au cercle littéraire, il y a de nombreuses personnalités en fait là-dedans.
Oui, parce qu'il faut dire que la Deuxième Guerre mondiale, du point de vue africain, c'est-à-dire ces tirailleurs camerounais, congolais, tchadiens, etc., C'est la dernière force qui n'a pas eu de femmes comme étant des combattantes. Bien, les forces qui viendront après, c'est-à-dire d'une part les forces nationalistes et puis d'autre part les forces armées nationales, auront des femmes. Mais là, nous avons donc plus ou moins une guerre qui est gentrifiée, enfin, pratiquement. Et donc, il faut voir dans quelle mesure les femmes ont fait la guerre et ont été en même temps les victimes de la guerre. C'est-à-dire, en même temps, comment est-ce que les soldats qui ont fait la guerre, eux-mêmes sont des victimes de la colonisation. Donc, on se retrouve, les hommes et les femmes, avec cette même antinomie qui fait que le libérateur ou bien le libéré se retrouve l'esclave, ou bien le résistant se retrouve finalement colonisé. Et la suite de l'histoire africaine, surtout francophone, sera dictée par ça, parce qu'il faut se rappeler que beaucoup de personnages de cette guerre ont structuré l'Afrique d'après. Senghor était un tirailleur, Samuel Osman était un tirailleur, voilà, Bokassa était un tirailleur, Yadema était un tirailleur. Donc il y a un nombre extraordinaire de présidents qui étaient tirailleurs. Et donc, il y a bien sûr Oumyobé qui était partie prenante du débat intellectuel, qui a été assassiné plus tard, Wandie. Dans cette guerre-là, a fabriqué une conscience véritable. C'est dans l'antinomie-là, qui est partagée par les hommes et par les femmes, que les idées du futur sont en fait nées.
Ruben Oumyobé, le futur chef indépendantiste, est un des personnages principaux de la saison des prunes. Quant à Ernest Wandie, dont parle Patrice Ganang, il est d'abord militant de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun avant de lancer l'ALNK, l'Armée de Libération Nationale du Cameroun, avec un K. Il sera condamné à mort en 1970. Et comment vous avez travaillé? Vous venez de dire, oui, quand je lis des romans, etc. Vous vous êtes inspiré de romans? Vous avez, j'imagine, travaillé aussi avec les archives?
Oui, je travaille beaucoup avec les archives. De manière immédiate, je travaille beaucoup avec les images. Les images d'abord de beaucoup de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale qui implique les Africains et surtout les Africains d'Afrique centrale qui ont été immédiatement partie prenante du conflit parce que l'Afrique de l'Ouest était dominée, était fasciste, du moins c'était vichiste, je voulais dire. L'Afrique centrale ne l'était pas. Ça fait que celle-là était partie prenante du conflit dans son entier. Cependant, les images sont parcimonieuses, c'est-à-dire elles ne racontent pas cet engagement évident et elles sont aussi controversées parce que ces images, ce sont des images coloniales. La guerre a tout de même eu lieu au cœur de la colonie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ces images ne sont pas seulement parcimonieuses, elles sont également l'objet de batailles idéologiques extraordinaires. Par exemple, la statue de l'éclair est détruite pratiquement systématiquement à Douala et est reconstruite par l'ambassade de France, est détruite, reconstruite, etc. Donc, jusqu'à présent, nous sommes en 2014, le conflit est encore polémique. À Yaoundé, c'est identique. La tête de Charles Taranaki était partie prenante à la fin de sa vie du recrutement de ces soldats-là est sectionné, etc., est remis, sectionné, etc. Donc nous avons des batailles symboliques qui s'expriment dans l'iconoclasme. Donc je travaille avec les images, je travaille dans les archives, avec des documents, pour essayer de voir dans quelle mesure ces personnages peuvent avoir un corps vraiment qui soit humain.
Et comment, alors je ne sais pas si vous avez fait des lectures déjà au Cameroun, j'aimerais bien savoir en fait comment les, ici il y avait aussi des Camerounais aujourd'hui, comment les Camerounais réagissent justement à ce livre-là précisément, à cette partie de l'histoire qui finalement n'est pas extrêmement connue?
Oui, bon, j'ai déjà dit que les Camerounais ont une relation polémique avec cette histoire parce qu'ils détruisent déjà les statues qui se réfèrent à cette partie-là parce que pour le Cameroun, cette histoire est l'histoire coloniale. C'est-à-dire, c'est l'histoire, en fait, de l'installation de ce qu'on appellerait aujourd'hui la France-Afrique, parce qu'elle a commencé, évidemment, à l'Afrique centrale, avec le premier coup d'État en 1940 à Yaoundé, avec la transformation du statut politique du Cameroun, qui n'était pas une colonie, qui était un territoire sous mandat sous tutelle, en une colonie de fait, et puis finalement, avec l'installation d'un gouverneur, alors que le Cameroun avait toujours un commissaire. Donc, ces changements structurels-là qui font qu'il y a eu un changement de statut. Ce statut-là n'a pas changé au Cameroun, ce qui fait que la structure politique camerounaise est héritière de 1940, et pas vraiment d'après. De 1940, c'est là où ça s'est installé. Par rapport à ce présent camerounais-là qui a vécu depuis 1940, et même avec mes romans d'avant, j'ai toujours voulu que le Cameroun soit partie prenante de ce débat-là. Donc, en écrivant déjà l'histoire, moi j'avais des interviews de Camerounais, je travaillais avec les Camerounais, mais après, il y aura une édition camerounaise du roman qui paraîtra dans quelques mois-là. Donc, en fait, presque tous mes livres ont maintenant des éditions camerounaises. Et donc, lorsque je suis au Cameroun, je présente mes livres, y compris celui-là, et nous en parlons. Je ne pense pas que les Camerounais aient une relation qui soit glorieuse par rapport à cette histoire, ou bien qui soit polémique et qui ne tienne pas compte de mon livre, parce que mon livre veut susciter ce débat-là, veut que les Camerounais, justement, discutent, parlent, etc., de ça. Bon, des parties du roman ont été publiées dans les journaux au Cameroun, etc. Donc, bref, le roman est écrit en conversation permanente avec le Cameroun déjà.
Et à propos de conversation, justement, vous avez parlé ici, donc devant les étudiants, de votre engagement aussi, donc à travers la littérature, vous dites, voilà, je veux faire parler les gens de ça, ouvrir un débat, mais aussi à travers Facebook, etc. Vous êtes très actif aussi, politiquement, à travers toutes ces activités. Vous pouvez nous parler un petit peu de cet aspect-là aussi, de votre vie, finalement?
Oui, oui, c'est une manière de faire que les Camerounais conversent les uns avec les autres, parce qu'il y a beaucoup de barrières qui ont été érigées, justement, par cette structure politique qui est héritière de la Deuxième Guerre mondiale. Avoir une voix au chapitre même de l'histoire camerounaise a été une bataille extraordinaire. Et pour un écrivain comme moi, je ne peux vraiment écrire qu'en conversation avec le Camerounais pour qu'il me donne, d'une certaine manière, les voix à travers lesquelles il joue, avec lesquelles il réécrive cette histoire qui est installée dans le tabou. Il faut réécrire tout d'un point de vue camerounais. Ce n'est possible vraiment qu'en conversation permanente avec les Camerounais eux-mêmes, qui le font naturellement sur un espace comme Facebook, qui le font de manière naturelle. Et comme je suis impliqué dans beaucoup de débats politiques, ceux qui détruisent les statues-là, ce sont tous mes amis. Donc, c'est une rigolade.
Et donc vous dites qu'il faut réécrire tout. Qu'est-ce qui vient après la saison des prunes?
Ah oui, ce qui vient après la saison des prunes, c'est la guerre civile. Parce que le Cameroun n'a pas encore trouvé un vocabulaire pour se raconter, n'a pas encore trouvé une manière de fabriquer la politique qui puisse tenir compte de sa propre histoire. Donc c'est la guerre civile de 60-70 qui a eu une préface en 1953-1960, c'est-à-dire comme la guerre de libération. Et donc, le troisième roman raconte cette histoire-là.
Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Patrice Ganang d'en avoir été l'invité. C'était Audrey Parmentier au micro. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.de/français. Bonne suite de programme sur nos ondes.